Le journal, Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les enchères sont lancées. Qui voudra de la 5G? Les opérateurs téléphoniques vont payer le prix fort pour en bénéficier à partir d'aujourd'hui. Le progrès à tout prix. Une expression qui pose question face aux réticences des citoyens, vous l'entendrez.
Amnesty International dénonce un système français destiné à réprimer des manifestants qui souvent n'ont pas commis d'infraction. L'ONG publie un rapport en ce sens ce matin. Elle épingle les forces de l'ordre et la justice. Les détails dans ce journal.
À l'heure de la présentation des différents budgets pour l'année 2021, nous nous pencherons dans cette édition sur celui des universités. Elles redoutent en fait l'année d'après, 2022, si les étudiants étrangers ne reviennent pas.
Donald Trump et Joe Biden se retrouvent ce soir pour un débat à 35 jours de la présidentielle américaine. Nous en ferons l'état des lieux.
Et puis nous irons au Kenya où les États-Unis pourraient exporter 500 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, avec l'aval du gouvernement à Nairobi. Les demandes de moratoire de la Convention citoyenne pour le climat puis des politiques de gauche ces derniers jours n'y ont rien changé. C'est aujourd'hui que commencent les enchères pour l'attribution des dernières fréquences pour la 5G, la cinquième génération de communication mobile. Une vente qui s'adresse aux opérateurs et qui devrait rapporter plusieurs milliards d'euros à l'État. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Cette nouvelle génération s'inscrit dans la continuité du passage de la 4, à la 4G, puis à la 4G et à la 3G, qu'on a déjà connue. Qu'est-ce que la 5G va changer?
Eh bien, la promesse avancée par les industriels, c'est un débit plus important et moins de délais entre l'émission et la réception d'une information. Alors, pour les particuliers, cela pourrait se traduire par plus de confort quand ils consomment des vidéos, des contenus en réalité virtuelle ou des jeux vidéo, par exemple. Mais à ce stade, ce sont surtout les entreprises que la 5G intéresse, car elle ouvre la perspective de développement d'objets connectés et d'applications industrielles. La 5G, c'est donc avant tout un enjeu commercial et de nouveaux marchés. Les opérateurs, c'est-à-dire Orange, SFR, etc., ont d'ailleurs déjà lancé les expérimentation. Et c'est la qualité de service et donc les voies d'accès à ce marché que les opérateurs vont se disputer via ces enchères pour l'achat de fréquences. Pour faire quoi? Eh bien, si l'industrie cite des exemples récurrents, comme la voiture autonome, difficile pour l'heure de savoir quelle application pourrait rapidement émerger. De son côté, le gouvernement présente la 5G comme un enjeu de compétitivité pour la France.
Alors pourquoi donc la 5G fait-elle débat aujourd'hui, Catherine?
Parce que l'attention se porte désormais sur les conséquences de ce nouveau développement technologique, à commencer par les enjeux environnementaux, au regard de la masse de ressources et matériaux nécessaires pour les équipements, du risque d'encourager davantage l'obsolescence programmée des smartphones et des logiciels, ou encore des émissions de carbone dues à l'augmentation des volumes échangés. Il y a ensuite les craintes pour la santé, même s'il n'existe pas encore de données claires là-dessus. À cela s'ajoutent les questions de sécurité des objets connectés et de surveillance. Au-delà des arguments pour ou contre sur ces différents sujets, ce qui rassemble peut-être toutes ces critiques, c'est la demande d'un débat sur la stratégie de développement. Pourquoi veut-on de la 5G? Dans quel but développer tel ou tel usage? En somme, la 5G catalyse aujourd'hui les débats sur la place de l'innovation et ce qu'une société considère comme un progrès.
Catherine Pétillon, merci. Pour aller plus loin sur cette question de la place de la société dans le débat, vous avez interrogé le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques. Sébastien Soriano assure à votre micro que les enchères prendront en compte toutes les inquiétudes des citoyens. Voici sa défense.
Alors à court terme, nous organisons cette enchère pour permettre aux opérateurs de lancer leurs services, mais conscients de ce débat aigu dans la société, nous voulons être aussi les garants du bon usage de cette technologie. Nous ne voulons pas être dans un techno-enthousiasme naïf, nous voulons apporter des garanties. En fait, notre ambition, c'est de inventer une régulation qui soit aussi environnementale. Un des enjeux importants, c'est la crainte que l'arrivée de nouvelles technologies nous entraîne dans une fuite en avant qui ne serait pas responsable d'un point de vue écologique, avec un renouvellement un peu frénétique des équipements, notamment des smartphones, et puis potentiellement une dérive dans la consommation énergétique de toutes ces infrastructures. Et donc, nous allons publier un rapport qui fera des propositions pour inventer cette régulation environnementale. Ce sera ensuite au pouvoir politique de décider s'il souhaite se l'approprier ou non.
Et pour évoquer encore l'idée de progrès à travers l'histoire, François Jarige, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, sera l'invité du journal de midi et demi de France Culture aujourd'hui. Elle parle d'acharnement judiciaire. Dans un rapport publié ce matin, l'ONG Amnesty International dénonce les arrestations de milliers de manifestants pacifistes en France depuis fin 2018. Comprenez, pendant la période des Gilets jaunes et contre la réforme des retraites, Amnesty International démontre comment l'arsenal législatif en France est instrumentalisé par les autorités, à savoir les forces de l'ordre et le parquet. Chiffres à l'appui, Anne Fauquemberg.
De novembre 2018 à juillet 2019, selon les remontées des parquets, plus de 11 000 manifestants ont été placés en garde à vue. Amnesty International explique aujourd'hui que plus de la moitié de ces arrestations et gardes à vue n'ont débouché sur rien. C'est pourquoi l'ONG dénonce des lois problématiques et vagues qui conduisent à de telles dérives. Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer liberté, cite l'exemple du délit d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, un délit utilisé selon elle dans un sens trop large.
On a eu le cas d'une personne qui a eu un rappel à la loi pour une banderole sur laquelle il était écrit « Oui au muguet, non au LBD ». Ce type d'expression ne relève pas de l'appel à la haine, de l'incitation à la discrimination, à la violence ou à l'hostilité, et ne devrait pas être pénalisé.
Dans le contexte de la pandémie et de l'obligation du port du masque, Amnesty International demande aussi au gouvernement de revenir sur la loi dite « anti-casseur » votée en 2019 et qui avait créé un nouveau délit de dissimulation du visage.
De manière générale, une interdiction générale de ce type-là, ça va être contraire au droit international. Dans le contexte Covid, ça n'a plus aucun sens.
L'organisation est d'autant plus vigilante qu'elle n'a pas été convaincue par le nouveau schéma du maintien de l'ordre publié le 17 septembre dernier. Un schéma destiné à répondre aux nouvelles formes de manifestation avec des mouvements sans organisateur ou des stratégies de blocage ou d'occupation. L'ONG voit surtout un cadre juridique contraire au droit international où l'usage de la force est toujours central.
Et en cette rentrée 2020, c'est contre les mesures sanitaires qu'une partie des Français proteste. Depuis hier, les bars et restaurants sont dans l'obligation de baisser totalement leurs rideaux à Marseille. Dans les autres villes, en alerte renforcée, les bars doivent fermer à partir de 22h pendant deux semaines. Le Premier ministre Jean Castex recevra ce matin à Matignon les représentants des hôtels, bars et restaurants. Et il sera sans doute question ce matin des aides de l'État pour les entreprises. Hier, le gouvernement présentait en tout cas son budget 2021, insistant notamment sur la réduction de 10 milliards d'euros des impôts de production pour toutes les entreprises sans distinction. Est également inscrit dans ce budget l'exonération de charges patronales pour les saisonniers agricoles jusqu'en 2022, c'est-à-dire une année de plus. Ce mardi, par ailleurs, c'est le budget de la sécurité sociale qui sera présenté. Après un déficit record de plus de 4,5 milliards d'euros, une perte de 25,5 milliards est attendue pour 2021. Et puisqu'on parle budget, penchons-nous ce matin sur celui de l'université. Il sera en baisse l'année prochaine. L'enseignement supérieur et la recherche perdent 200 millions d'euros. À cela s'ajoute peut-être l'absence de nombreux étudiants étrangers dans les universités en France. Cela aura-t-il un impact sur leurs finances, Hakim Kasmi ?
Les principales sources de revenus des universités proviennent surtout des dotations du ministère de l'Enseignement supérieur, des collectivités et des fonds européens. Les droits d'inscription des étudiants étrangers arrivent très loin derrière. En fait, c'est surtout l'année prochaine que les pertes seront les plus importantes, avec l'augmentation significative des droits d'inscription qui seront obligatoires dans tous les établissements pour les étudiants étrangers ne venant pas de l'Union européenne. Mohamed Amara, vice-président de la conférence des présidents d'université en charge des questions internationales.
Les universités ont le droit d'exonérer à hauteur de 10%, c'est dans le code de l'éducation. La quasi-totalité des universités ont utilisé cet article et donc ont gardé les mêmes droits d'inscription pour les étudiants européens ou extra-communautaires. Par contre, à partir de la rentrée 2021-2022, effectivement, les 10% seront atteints dans la grande majorité des universités et il faudra qu'elles appliquent au-delà de ce seuil ces droits d'inscription différenciés.
Quant aux grandes écoles, qui traditionnellement reçoivent au moins 30% d'étudiants étrangers, elles ne connaissent pas une baisse de leurs effectifs, malgré les cours à distance, notamment pour ceux qui viennent des États-Unis ou de Chine. Au contraire, avec la crise sanitaire, pour être sûr de trouver du travail, les familles fortunées préfèrent payer des études prestigieuses à leurs enfants, comme l'explique Félix Papier, directeur général adjoint de l'ESSEC, grande école de commerce.
Nous avons déjà vu dans des crises précédentes, crise financière, etc., que dans un contexte de crise, Beaucoup d'étudiants souhaitent d'abord continuer leur formation, s'assurer d'une bonne formation avant de se lancer dans le marché du travail.
Chaque année, la France reçoit 300 000 étudiants étrangers.
C'est à l'étranger qu'elle a choisi de parler et de surprendre. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, s'est confiée hier au quotidien britannique The Times. À propos de ses projets pour les deux années à venir, elle répond sans détour « Gagner l'élection présidentielle de 2022, Rosalie Lafarge ».
Rachida Dati parle-t-elle d'elle ou de la droite? Le titre de l'interview publié dans le Times laisse peu de place au doute. « I want to be president », »,« Je veux être présidente », a manifestement lâché l'actuelle maire du 7e arrondissement de Paris aux journalistes britanniques. Le cœur de l'article est un peu moins net. « Cette bataille, peut-être que je pourrais la mener », glisse par exemple l'ancienne eurodéputée. Elle le sait, avant de se lancer, elle va devoir convaincre sa famille politique. Elle s'y attelle, à en croire Nelly Garnier. La conseillère LR de Paris a été la directrice de campagne de Rachida Dati aux dernières municipales.
Elle est prête à aller au combat, mais elle sait que la démarche devra être collective et que surtout, la pire chose que pourrait faire la droite, c'est se lancer dans des logiques d'écurie. Donc c'est pour ça qu'elle dialogue avec Xavier Bertrand, avec Bruno Retailleau, avec Gérard Larcher, avec Christian Jacob, avec Valérie Pécresse, avec toutes les grandes figures de la droite, dans les LR et hors LR, pour essayer de travailler à ce collectif et faire que la personne qui sera la plus à même de convaincre les Français puisse être portée par une dynamique collective en 2022.
Cet intérêt pour la présidentielle n'est pas nouveau chez Rachida Dati, elle l'a déjà évoqué au lendemain des municipales, mais à ce moment-là, François Baroin était encore dans la tête des cadres et des militants à droite. Depuis, beaucoup doutent de la volonté du maire de Troyes et chacun affiche plus librement ses ambitions. Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse semblent prendre leur marque, mais dans les instances des LR, on met en garde. La priorité aujourd'hui, c'est la crise sanitaire, économique et sociale, pas la crise des égaux. Le choix du candidat pour 2022 chez les Républicains, on l'a déjà acté. Ce sera pour avril 2021, après les régionales.
C'était Rosalie Lafarge.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal aux États-Unis. La présidentielle est bien plus proche, elle aura lieu dans 35 jours.
Oui, et les deux candidats se préparent aujourd'hui pour leur premier débat, première confrontation entre le président sortant républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Dans une campagne dominée par la crise sanitaire et les violences envers les Noirs, par les invectives régulières, ce débat est forcément très attendu, Grégory Phillips.
Les organisateurs de ce premier débat espèrent attirer ce soir 120 millions de téléspectateurs. Il est vrai que cette première confrontation directe entre Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden est attendue. Depuis quelques jours, le candidat républicain multiplie les déclarations agressives à l'égard de celui qu'il a rebaptisé Sleepy Joe, Joe l'endormi, Trump réclamant même un contrôle antidopage pour vérifier que son adversaire de 77 ans n'est pas dopé. Mais on s'attend aussi à voir un Trump sur la défensive, quand forcément viendront sur la table les révélations récentes du New York Times sur ses déclarations fiscales et le fait que pendant ces 15 dernières années, il n'a quasiment pas payé d'impôts fédéraux, sa gestion de l'épidémie coronavirus. Plus de 205 000 morts aux États-Unis sera aussi un thème central de la soirée. Mais dans une Amérique divisée, polarisée, il est très probable que quoi qu'il se passe ce soir, les électeurs ne changent pas d'avis. Dans un sondage paru hier, seuls 3% d'indécis expliquaient que ce débat leur ferait peut-être choisir un candidat plutôt que l'autre. Enfin, près d'un million d'Américains dans 13 États ont déjà voté de manière anticipée et quelle que soit l'issue du débat de ce soir, leurs bulletins de vote sont déjà partis.
Grégory Phillips dans l'Ohio à Cleveland pour ce débat présidentiel que nous suivrons évidemment la nuit prochaine. Compte rendu demain matin. Les Américains encore et leur impact cette fois au Kenya. Les États-Unis sont en discussion avec Nairobi pour un accord commercial, accord qui pourrait prévoir l'exportation de 500 millions de tonnes de déchets plastiques. Jusqu'en 2018, c'est la Chine qui en importait la majorité, mais elle n'en veut plus. Washington se tourne donc vers un autre pays, Charlotte Simonard.
Officiellement, les États-Unis veulent aider le Kenya à développer une industrie du recyclage. Promesse d'emploi à la clé et même d'accès au marché américain pour les produits kényans. Un accord alléchant alors que l'économie kényane est au plus mal suite à la crise du coronavirus, mais un accord qui serait catastrophique pour l'environnement. Frédéric Njehu, responsable de l'ONG Greenpeace au Kenya.
Le Kenya n'a absolument aucune capacité de recyclage et encore moins de stockage pour ces millions de tonnes de déchets qui viendraient des États-Unis. De plus, seuls 7% de ces déchets peuvent être recyclés. Le reste terminera dans les décharges. C'est une menace énorme pour la vie marine, les rivières, les sols, sans parler des fumées toxiques qui s'en dégageront.
Le président kényan s'est déjà dit impatient de signer cet accord commercial qu'il compte bien mettre à son actif à la fin de son mandat en 2022. Ce serait le premier du genre conclu par les États-Unis avec un pays d'Afrique subsaharienne. Frédéric Ndjehou.
Cet accord commercial est totalement déséquilibré. Nous négocions avec plus fort que nous. Le Kenya va devoir revoir à la baisse ses standards environnementaux au nom des investissements américains et d'un libre accès à leur marché. Par extension de cet accord, les Américains voudront à l'avenir exploiter nos ressources naturelles, ce qui compromet notre développement.
Les négociations sont encore en phase préliminaire. Elles devraient démarrer d'ici décembre prochain.
Charlotte Simonard à Nairobi pour France Culture. Nous en parlions hier ici même, les combats au Karabakh. Ils s'intensifient. Au moins 95 personnes sont mortes dans ce conflit qui oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est attendue aujourd'hui. Et puis l'on apprend ce matin qu'Emmanuel Macron a rencontré à Vilnius l'opposante belarusse Svetlana Tikhanovskaya, réfugiée hors de son pays. Face à l'élection contestée en Biélorussie d'Alexandre Loukachenko et à la répression de son gouvernement, le président français a appelé Minsk hier à respecter la vérité des urnes. Le temps de ce mardi en France métropolitaine, pluvieux sur le nord-ouest, plus lumineux au sud, avec 4 petits degrés à Aurillac ce matin, 11 à Lyon, 14 à Paris, Rennes, Strasbourg, 16 degrés à Nice.